Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, pour pas changer, eh bien, on va commencer par Notre-Dame-des-Landes. Vous avez entendu hier, peut-être, que la cour administrative de Nantes a retoqué les anti-aéroports. Il y avait quatre décrets du préfet qui étaient mis en cause. Donc, sur les cinq, et donc les anti-aéroports ont été déboutés de cette demande. Par contre, les travaux ne peuvent pas encore commencer parce que je pense que les opposants à l'aéroport vont aller jusqu'au Conseil d'État. Et puis, de toute façon, il y a encore une décision de Bruxelles qui doit avoir lieu, et elle aura lieu en avril. Donc d'ici là, et il va se passer encore beaucoup de choses, et on espère beaucoup d'eau sous les ponts. Je vous lis dans Campagne solidaire du mois de novembre, la dernière page, à propos de Notre-Dame-des-Landes. Nous sommes là, nous serons là. Le rassemblement des 9 et 10 juillet à Notre-Dame-des-Landes avait montré que la consultation, entre guillemets, du 26 juin n'a pas démobilisé le mouvement anti-aéroport. Mais face aux menaces renouvelées d'intervention du Premier ministre, il était nécessaire de montrer notre force et notre détermination. Plus de 40 000 militants et militantes ont répondu présents ce 8 octobre. Formidable élan collectif pour afficher cette détermination à préserver les terres vivrières, la biodiversité du site et les expériences de vie qui s'y mènent. Des bâtons ont été plantés comme signe d'engagement à revenir défendre revenir défendre la zone ou à agir chez soi. Nous sommes là, nous serons là. Dans la même perspective, un hangar de défense s'est monté hors de la zone à défendre, la ZAD, pour disposer de lieux de restauration et réunion. Mais deux autres hangars se sont montés dans la ZAD, un pour développer des activités autour du bois et de la terre, et un autre pour permettre l'installation d'un couple cultivant des plantes aromatiques et médicinales. La ZAD prépare sa défense, mais continue son chemin. Dès le lundi, Manuel Valls confirmait l'évacuation imminente de la ZAD et, à notre surprise, Ségolène Royal. La ministre de l'Environnement réaffirmait son hostilité à une intervention qui engendrerait des violences. Pour lui répondre, un tollé du président de région élu Les Républicains, auxquels se joignent les voix des élus PS locaux. Nous découvrirons quelques jours plus tard que le président n'est pas favorable au projet en tant que tel, mais qu'il ne fait rien pour le suspendre, pour respecter la volonté des élus locaux. De plus, ils nous considèrent juste comme des anti-progrès, ignorant les motivations profondes des militants, et militantes bien sûr. Les politiques au plus haut niveau n'ont rien compris aux enjeux que porte cette lutte. Quelle terre et quelle société laisserons-nous à nos enfants ? Il faut sauvegarder toutes les terres nourricières pour nourrir sainement notre population. Il faut garder les bocages et terres humides, sources de biodiversité, hélas, déjà en régression. Notre mode de développement est à bout de souffle. Il accroît les inégalités, augmente la précarité et exclut les plus faibles et les plus jeunes. La perméabilité entre nos décideurs et les grandes sociétés conduit au pillage de l'État et au discrédit des responsables, entre guillemets, politiques, qui ont oublié toute notion d'intérêt général et de vision à long terme. La démocratie se résume pour eux à « Votez pour nous, laissez-nous décider ». Toutes ces motivations guident nos militantes et nos militants, et avec un cas d'école comme Notre-Dame-des-Landes, nous serons de plus en plus nombreux au fil du temps. Les liens qui se développent avec le syndicalisme, notamment avec la CGT Vinci, par exemple, en sont un indice. Notre prochain rendez-vous est le 7 novembre, donc il a eu lieu ces jours passés, pour le rendu du jugement en appel sur le respect de la loi sur l'eau et la destruction des espèces protégées. Nous nous préparons à toute visite inopportune et comptons sur votre soutien actif tout au long des semaines à venir, car c'est surtout là que sera ce qui sera déterminant. Ce papier est signé Sylvie et Marcel Tabot, qui sont paysans à Notre-Dame-des-Landes. Dans Campagne solidaire du mois de novembre, je vous lis l'édito signé par Michel Roux, qui est paysanne en Dordogne et qui est secrétaire national. La fin des paysans, c'est fini. Nous vivons dans une période étrange de crises multiples, structurelles ou conjoncturelles. La disparition voulue et annoncée des paysannes et des paysans est sans doute une des raisons principales de ces crises. Dans tous les pays sur la planète, un rythme plus ou moins rapide s'impose ou tente de s'imposer les agri-managers et les fermes-usines. Nous, paysans, secteur primaire de l'économie, nous sommes le fondement de toute société, la trame du tissu social des territoires, les fournisseurs de la nourriture, les gardiens de la qualité de l'eau, de l'air, de la fertilité des sols, du maintien d'une grande biodiversité. Une civilisation sans paysans perd ses racines, devient aseptisée, polymérisée et bétonnée. Alors, quand un paysan s'arrête, victime de la crise, quand un paysan ne transmet pas sa ferme, c'est un drame, pas seulement pour elle, pour lui, pour eux, mais aussi pour nous tous. Nous perdons un voisin, une voisine, nous perdons une parcelle d'humanité. On nous dit, quand on est syndicaliste, il faut savoir prendre du recul. Je veux bien. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt envie de prendre une loupe, de regarder de près des images de la vie au risque d'être touché. Je vois alors une bande de jeunes, on les appelle les zadistes. Attention, ils sont en train de créer un autre monde. Pensez, ils organisent des non-marchés à côté du vieux monde où le marché est roi. Ils aident les réfugiés à l'heure où nos pays d'Europe expulsent. Ils s'installent paysans dans une zone expropriée. Le 8 octobre, ils ont accueilli une fois encore des milliers de personnes venues les soutenir. À y voir de plus près, Je vois aussi une courbe, pas celle du chômage, mais la courbe du nombre de paysans. Les chercheurs de l'INRA nous ont montré qu'elle commence à stagner, et même à frémir, et à remonter. La fin des paysans, c'est fini. Et je vois plein d'autres choses encore, tels ces citoyens de toutes conditions sociales, heureux sur un marché, celui de Montreuil ou celui de Bagnolet, organisé les 15 et 16 octobre par les amis de la Confédération paysanne, et qui nous interpelle. Nous, les pauvres de la ville, c'est pas tous les jours comme aujourd'hui que nous avons droit à de bons produits. Les exemples sont nombreux qui nous montrent que le nouveau monde est déjà là. Mais il ne poussera pas sans l'entêtement et les luttes de la Confédération paysanne et de ses partenaires, des paysans espagnols, du syndicat COAC, dont le secrétariat national de la Confédération paysanne a rencontré les dirigeants le 19 octobre à Madrid, à ceux de Belgique qui luttent avec nous contre la ferme-usine des 1000 vaches de Drucat, dans la Somme, à tous les représentants des organisations animant à nos côtés fin octobre les rencontres nationales des agricultures, et à tous les paysans et autres citoyens que nous nous apprêtons à rencontrer dans quelques jours à Cluj en Roumanie pour Nieleni 2016, forum social européen destiné à promouvoir la souveraineté alimentaire. Et puis, dans ce même numéro de campagne solidaire, je vous lis, parce que nous sommes actuellement en plein déroulement de la COP22 à Marrakech, et donc il y a un article dans Campagne solidaire, les terres agricoles, sujet sensible de la COP22. Un an après la COP21, la conférence, 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, elle se tient donc du 7 au 18 novembre. L'agriculture devrait y être au centre des discussions. En décembre 2015, s'est déroulée la COP21 à Paris avec de fortes mobilisations paysannes et citoyennes et au bout l'accord de Paris. Celui-ci donne pour consigne aux 196 États parties de la Convention climat des Nations Unies de contenir l'élévation des températures au-dessous de 2 degrés, voire 1,5 degrés centigrades par rapport au niveau pré-industriel. La COP22, elle, attire moins les regards. Et pourtant, surnommée COP de l'agriculture, c'est elle qui devra discuter des actions concrètes à mettre en œuvre pour permettre l'application de l'accord de Paris. Le rôle donné à l'agriculture dans les négociations sur le climat est fait d'ambiguïté, trop politique pour en parler ouvertement, car il faudrait alors discuter de la responsabilité différenciée des différents modèles dans le changement climatique, mais trop important pour ne pas l'évoquer. En attendant, on laisse le champ libre à ceux qui sauront quoi faire de l'agriculture pour leur propre bénéfice. Fausse solution. Ainsi a-t-on à beaucoup. Oui, ça c'est une faute de frappe des typographes. Ainsi a-t-on beaucoup entendu parler de l'agriculture intelligente face au climat. Le concept fait la part belle à des pratiques techno-scientifiques et financières déjà lancées. Même si l'agroécologie y est évoquée, il n'y a aucune remise en cause de l'usage des produits chimiques, pesticides ou engrais, pourtant cause importante d'émissions de gaz à effet de serre. Les biotechnologies sont mises en avant, les nanotechnologies et l'hypermécanisation présentée comme des innovations salvatrices. Le 4 pour 1000, autre initiative lancée par la France, vise à améliorer les stocks de carbone dans le sol. À juste titre, puisque le constat d'un appauvrissement de la matière organique des sols ne peut être que partagé. Mais en l'absence d'affirmations claires sur la responsabilité des différents modèles agricoles, les pratiques de l'agriculture intelligente face au climat, je mets ça entre guillemets, pourraient être plébiscitées pour répondre aux enjeux du 4 pour 1000. Car si ces initiatives font appel à un panel d'acteurs très large, tels les collectivités et les ONG, nous y retrouvons aussi les promoteurs de l'agriculture industrielle, en particulier du monde des fertilisants. L'introduction des puits de gaz à effet de serre dans l'accord de Paris paraît dangereuse. En prévoyant un équilibre entre les émissions et les absorptions par ces puits, l'accord entérine le principe de compensation pour faire face à la crise climatique. Cette notion ne signifie pas que les émissions doivent baisser effectivement, mais que les émissions et les absorptions doivent se compenser. Or, pour faire face à la crise climatique, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre et pas seulement les compenser. Ce qui est émis l'est indéfiniment, tandis que le stockage naturel du carbone est réversible et a une durée de vie limitée. Selon le principe de l'accord de Paris, les terres deviennent des puits de gaz à effet de serre permettant de compenser les émissions d'autres secteurs. Les États, les entreprises pourraient sanctuariser des espaces agricoles ou y transformer les pratiques pour répondre à des enjeux de compensation, voire pour générer des crédits carbone si un mécanisme de financiarisation s'y ajoute. Les terres agricoles deviennent alors un objet comptable des émissions de gaz à effet de serre et permettent aux États de repousser l'action nécessaire et urgente qu'appelle la crise climatique. Les risques sont nombreux, accaparement des terres au bénéfice de l'inaction des États et au profit des multinationales, avec atteinte aux droits des paysans et paysannes à leur savoir-faire et à la souveraineté alimentaire. La Confédération paysanne et la Via Campesina, dont elle est membre, défendent une agriculture fondée sur l'agroécologie paysanne, seule à même de répondre aux enjeux climatiques. Cette agriculture est avant tout un corpus de pratiques vivantes et de mouvements sociaux avec un objectif commun, une agriculture sociale et écologique ancrée dans les territoires. Elle fait appel à des pratiques agronomiques économes et autonomes, à des pratiques sociales de justice et à des pratiques économiques de relocalisation. Cet article est signé Suzy Guichard, qui est animatrice nationale du dossier Agriculture et Climat.
Que restera-t-il sur la terre dans 50 ans? On empoisonne les rivières, les océans, on mange des hydrocarbures, que sais-je encore? Le Rhône charrie du mercure, des poissons morts. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? Le monde a perdu la boussole, qu'a-t-il gagné? des plages noires de pétrole pour se baigner. L'atome va régner sur terre comme un seigneur. Qu'en ferons-nous? C'est une affaire qui me fait peur. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? À peine le malheur des hommes est-il moins grand que déjà pourrissent les pommes des nouveaux temps. Enfants, enfants, la terre est ronde, criez plus fort pour que se réveille le monde s'il n'est pas mort. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux?
Je vous lis pour terminer cette émission le billet du Ruraleur de Campagne solidaire de novembre. Sec. Les rayons du soleil sont des épées de feu qui éventrent la terre. Elle s'ouvre, ses plaies béantes nous disent sa souffrance. Le paysan désemparé cherche l'eau, seul capable de cicatriser la blessure. Dans le haut de la parcelle, un ruisseau garde encore quelques gouttes du précieux liquide. L'homme, en ouvrant la vanne, permet à la vie de se retrouver au plus profond du terroir. La plante peut espérer l'appui comme une renaissance, un retour vers l'existence après un temps difficile mais transitoire. Loin d'ici, ils sont des milliers pour qui l'éclair n'illumine pas le ciel mais assèche la vie, sans espoir de ressurgence. Pour celles et ceux que la démence des barbares aura épargnés, la fuite vers des paradis fantasmés, avec la liberté comme un phare dans la tempête, reste la seule solution pour trouver une nouvelle source de sérénité. Mais les héros de la démocratie occidentale ont le sens de l'accueil très mesuré. Les rescapés d'un voyage qui, pour certains, sera le dernier, espèrent des mains tendues. Ils sont face à des barbelés, parages infranchissables vers l'espoir. Pire encore, une part non négligeable des populations européennes se laisse galvaniser par des politiques haineux, comme dans ces villes du sud de la France, où les murs se couvrent d'affiches angoissantes. Ils arrivent, injectant la peur comme une maladie contagieuse. Ils sont nombreux, ces maires, qui préféreraient voir les réfugiés loin de leur commune, pourquoi pas au diable. À quand une nouvelle nuit de cristal? Cependant, coule toujours dans les veines de nombreux concitoyens un fluide bouillant de justice, torrent d'espérance, flot de générosité. Sera-t-il capable de balayer toutes les tempêtes qui emportent notre dignité humaine? Sec, pas encore. Et pour souligner ce propos, je vous propose d'entendre Tikenja Fakouli. Ils ont partagé l'Afrique sans nous demander notre avis. Parce que c'est à cause de ces partages et de la colonisation que tout ce qui est en train de se produire arrive. Donc nous payons avec retardement la facture de nos décisions d'il y a fort longtemps.
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. ont partagé le monde. Plus rien n'est métal. La Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne, aïe, 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 aïe. Plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire mandin. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter.